おかしい、おかしい、おかしい。
Bonsoir, dans un rapport publié hier mercredi 11 avril, l'ONG britannique Greenpeace réclame l'annulation du contrat d'exploitation forestier attribué en violation du moratoire de 2002. C'est le thème que nous exploitons ce soir dans le dialogue entre Congolais. Sur quoi se base Greenpeace pour réclamer cette annulation? En quoi cette annulation serait-elle bénéfique pour la population et l'environnement en RDC? Réponse à ces questions dans le dialogue entre Congolais de ce soir. Nos auditeurs ont commencé à réagir depuis la journée. C'est le cas de Didier Abeni, Nord Kivu, qui demande au gouvernement de revoir tout le contrat des exploitants, car selon lui, les anciens dirigeants n'ont visé que leur intérêt et non celui de la population. Papi Poitier, Bandoudouville, estime que Greenpeace a raison de réclamer l'annulation des contrats forestiers, car la population de la RDC se retrouve ces derniers temps exposée à la chaleur due au déboisement incontrôlé de nos forêts. Jean-Moussa Sata, qui quitte dans les Bandundu, veut que l'exploitation forestière se fasse avec beaucoup de réserves au risque de désertification. Bokatola, dans la province de l'Équateur, dit ceci: nous ne voulons pas que nos forêts soient déboisées parce que nous risquons de perdre tous nos animaux. John Peter Kildamoudrou à Isiro, province orientale, la forêt est source de grandes richesses. Que le gouvernement avait à la signature des contrats avec beaucoup de responsabilités, surtout qu'il les fasse dans l'intérêt de l'économie nationale et du peuple congolais. Christian Kelly à Aro, province orientale, toujours, pense que le nouveau gouvernement doit normalement revoir tout le contrat signé pendant la transition et cela dans tous les secteurs. Pour parler de ces sujets ce soir, nous avons trois invités. M. Stéphane Van Proet, il est coordinateur forêt Afrique de Greenpeace International. Il est au téléphone depuis Bruxelles. Côté gouvernement congolais, il y a M. José Ilanga, il est conseiller chargé de la forêt au ministère de l'Environnement. Il est au studio. Et enfin, Mme Françoise Vendeven, secrétaire générale de la Fédération industrielle du bois RDC. Elle représente donc les exploitants forestiers. Il est au téléphone depuis Mbandaka. Bonsoir à nos invités.
Vous pouvez participer à l'émission, envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h hors de Kinshasa au 099-899-222.
Sur quoi se base Greenpeace International pour réclamer cette annulation? C'est la question qui nous permet d'aborder la première partie de cette émission. Les forêts congolaises constituent le deuxième plus grand massif de forêts tropicales au monde après l'Amazonie. Elles sont donc d'une grande importance pour la protection du climat. Cependant, selon le rapport de l'ONG Greenpeace International publié hier mercredi, les forêts congolaises sont exploitées sans contrôle par des sociétés forestières internationales, cela sans que la population n'en profite. Que retenir de ces rapports? Suivez plutôt son résumé que nous propose Claude Kiaza.
Selon ce rapport, le secteur forestier congolais est miné par une corruption endémique et par l'impunité dont profite le secteur forestier. Les sociétés forestières internationales y opèrent en dehors de tout contrôle. Depuis 2002, plus de 100 nouveaux contrats couvrant une superficie de plus de 15 millions d'hectares de forêt, soit 5 fois la Belgique, ont été signés en faveur des sociétés forestières. Et ce, en dépit d'une période suspendant l'octroi de nouvelles superficies forestières à exploiter en RDC. C'est le cas des sociétés Danzer, Sifoco, ITB, le groupe SNT qui comprend CFT, Porabola, Sodefor et Soforma, toujours selon ce rapport. La Banque mondiale reconnaît qu'au cours des trois dernières années, les communautés locales n'ont rien vu des taxes de superficie payées par les sociétés forestières. Dans certains contrats signés, les sociétés forestières offrent aux communautés locales des cadeaux tels que des sacs de sel et des bouteilles de bière. Ceci pour une valeur totale de moins de $100 américains en échange de droits de coupe valant des centaines de milliers de dollars. Et selon des membres de ces communautés, les promesses de construction d'écoles ou d'hôpitaux sont rarement tenus. D'où Greenpeace réclame simplement l'annulation des contrats d'exploitation forestière en RDC en violation du moratoire de 2002.
Merci Claude Kaza. Parole à nos invités. Monsieur Stéphane Van Proet, y a-t-il quelque chose à ajouter dans ces résumés?
Non, je crois que le résumé est clair et les conclusions du rapport sont alarmantes. L'abattage industriel pratiqué actuellement dans votre pays ne contribue pas véritablement au développement. Crée souvent des tensions sociales avec les communautés forestières et a un impact clairement négatif au niveau environnemental. Donc, en conclusion, les forêts du Congo sont précieuses, beaucoup trop précieuses pour que les laisser abattre de manière quasi incontrôlée, comme ça c'est malheureusement le cas jusqu'à présent, naturellement aussi faute de moyens de contrôle pour l'État. Donc Greenpeace appelle aux bailleurs de fonds, aux communautés internationales de soutenir le gouvernement dans son vœu de rayer la corruption et d'avoir des contrats corrects et responsables dans tous les secteurs des ressources naturelles. Et on voudrait naturellement que la communauté internationale aiderait le Congo à réussir à cette tâche importante.
Ok, monsieur José Ilanga, vous êtes conseiller chargé des forêts au ministère de l'Environnement. Vous venez de suivre monsieur Stéphane, vous venez également de suivre les résumés du rapport que nous a présenté notre confrère Claude Kianza. Peut-être aussi vous-même, vous avez lu ce rapport. Avez-vous un commentaire là-dessus?
Merci beaucoup pour la parole. Je crois qu'il y a beaucoup à commenter. Les rapports de Greenpeace font allusion d'une situation catastrophique. Mais malheureusement, les rapports de Greenpeace ne mentionnent pas les efforts qui sont actuellement consentis par le gouvernement de la RDC du Congo dans le cadre de l'assainissement du secteur de l'exploitation de nos forêts, mais aussi dans le cadre du renforcement du contrôle forestier à travers le territoire congolais. Je prends un exemple. Et je crois que nos amis de Greenpeace ne sont pas sans savoir que depuis l'an 2002, ils font allusion au moratoire. Et le gouvernement de la RDC du Congo est en train de fournir des efforts depuis ce temps-là. C'est lorsqu'on a constaté qu'il y avait des dérapages vis-à-vis du moratoire, il n'avait plus à la haute autorité de l'État de prendre une décision par un décret présidentiel, d'instituer une commission interministérielle de conversion de tous les anciens titres forestiers en contrats de concession forestière et prolonger le moratoire, mais aussi examiner la validité juridique de tous les titres anciens titres forestiers un à un, pour enfin arriver à y sélectionner des titres qui conviennent le mieux, qui ont été acquis convenablement sous l'angle juridique, mais aussi les titres qui appartiennent, qui donnent le droit à certaines sociétés d'exploiter, et si, surtout si ces sociétés-là ont un plan de relance convaincant et qui prouve qu'effectivement leurs activités sur le terrain ont un impact socio-économique et culturel. Donc, ce sont là, si vous permettez, encore en moins d'une minute, les efforts qui sont fournis, et je crois l'autorité qui gère les forêts dans notre pays actuellement n'a pas attendu la fin de ces travaux-là pour prendre un certain nombre de décisions. Et je crois que nos amis de Greenpeace n'ont pas cette information. Ils doivent se renseigner à la base parce qu'il n'y a pas plus tard que 2 semaines, on a pris une décision annulant 14 titres forestiers et qui ont permis à l'État congolais de reverser dans le patrimoine forestier national presque 3 millions d'hectares de forêts. Donc, en fait, il y a des efforts qui sont concentrés, mais qui sont ignorés par nos amis de Greenpeace qui crient au scandale alors que les choses avancent.
Ok, avant de donner la parole à Mme Françoise Vindeven, qui représente les exploitants forestiers, je vais vous demander, M. Stéphane, de pouvoir réagir. Votre rapport, suivant l'intervention du conseiller José Ilanga, accuse certaines faiblesses, notamment ne reconnaît pas les efforts qui sont concentrés par les autorités congolaises. Est-ce que vous connaissez ces efforts? Il n'y en a pas?
Bien sûr, au courant des efforts du gouvernement, il y a la révision de la légalité, il y a le moratoire, il y a effectivement des efforts qui ont été réalisés, et c'est aussi mentionné dans le rapport, mais malheureusement, 2 semaines après l'installation du moratoire, le gouvernement de transition a commencé à redonner de nouveaux titres, donc dans notre analyse, des millions d'hectares ont été redonnés à des sociétés en violation du moratoire.
Plus ou moins 15 millions d'hectares.
On demande que la révision de la légalité tienne compte de ces irrégularités et que cette révision sera faite correctement par la commission interministérielle. Et ça, c'est une demande clé qui est dans le rapport, qui fait aussi allusion naturellement aux efforts d'assainissement qui ont été entamés, mais malheureusement, le nouveau code forestier, par exemple, n'a pas été respectées, parce que même les titres post-moratoires ont été donnés de gré à gré et pas selon un système d'appel d'offres qui est demandé par le nouveau code forestier.
Ok. Madame Françoise Van de Ven, secrétaire générale de la Fédération industrielle du bois RDC, vous représentez les exploitants forestiers. Vous avez sûrement parcouru tout ce rapport et vous venez de suivre aussi l'intervention de M. Stéphane Van Vrette. Votre commentaire.
Bonsoir d'abord à tout le monde qui nous écoute.
Bonsoir, oui.
J'ai lu le rapport seulement cet après-midi parce que, comme vous l'avez cité, je suis au niveau de Bamaka et là, bon, nous connaissons continuellement des problèmes de courant. Donc j'ai eu, par la grâce de Radio Okapi et Bamaka, le rapport en question que j'ai pu parcourir cet après-midi. Je trouve ce rapport d'autant plus regrettable que si vous le parcourez, au fond, il n'y a personne qui ne travaille bien, il n'y a que Greenpeace qui travaille bien. Le gouvernement ne fait rien, la commission interministérielle est déjà mise en doute avant qu'elle commence le travail, le secteur privé ne développe pas le pays, le gouvernement ne fait pas de contrôle, la Banque mondiale ne fait rien non plus parce qu'elle fait des copier-coller au niveau de Cameroun, d'autres ONG qui sont sur le terrain et qui, heureusement, ont pris l'habitude de travailler avec l'administration et le secteur privé, entre autres, pour renforcer le contrôle forestier et pour développer les plans d'aménagement. Heureusement qu'on a encore cela, parce que si on devait seulement dépendre de Greenpeace, alors je crois qu'il fallait déjà commander les circuits, les sociétés seraient déjà fermées.
Monsieur Stéphane Van Preut, en tout cas, ceux qui vous accusent un peu de ce qui tire sur votre rapport, sur votre action sur le terrain, estiment que vous comportez comme le grand Dieu qui est au-dessus des cieux, qui regarde tout le monde par là et qui estime que vraiment, alors pas là, c'est pas Dieu, mais vous estimez que tout le monde a tort et c'est vous qui défendez mieux les intérêts des populations.
Bon, une recherche comme Greenpeace a fait une analyse, elle ne se fait pas seule, elle se fait avec le soutien de réseaux d'ONG d'environnement et de droits de l'homme, un réseau national sur les ressources naturelles. Je crois que ce constat n'est pas uniquement le constat des ONG internationales, c'est aussi le constat de la société civile congolaise, et je dois dire honnêtement que la référence vers un cercueil, c'est très macabre parce que c'est justement la plainte de gens qu'on a rencontrés au niveau de l'Oriental, au niveau du Bandundu, c'est que même malgré la présence de sociétés forestières à côté des villages, parfois les planches pour faire les enterrements manquent. Et ça, c'est vraiment une réalité. C'est que autour des confessions, les cahiers de charges, ça représente des contrats de la honte, ça représente des miettes pour les familles. Et on sait la valeur de ce bois qui part. Et là, je crois qu'il y a, et Greenpeace l'a dit dans le rapport, il y a une place pour un secteur forestier, mais un secteur qui change de comportement et qui prend aussi les droits des villageois en compte. Vraiment, on a trouvé des contrats, des cahiers de charges qui mentionnent des boîtes d'allumettes, des fardes de cigarettes, des blocs de savon, des chèvres. Si on sait que ces arbres vaut des centaines de dollars au marché international et que les superficies, ça vaut des centaines de milliers d'hectares, on se pose des questions. Et là, je crois, il faudra pas accuser le messager. Il faut analyser la problématique de fond qui est en évidence, c'est-à-dire que ce modèle d'extraction sur base des concessions doit être analysé critiquement et aussi pour que l'État congolais peut en sortir des recettes fiscales correctement, parce que pour le moment, comme dans d'autres secteurs, c'est plutôt une extraction qui malheureusement se fait encore sans plan de zonage. Il n'y a pas de délimitation où sont les aires pour l'agriculture, où sont les aires pour la protection.
En tout cas, l'ingénieur
industriel. Donc, il y a un chantier énorme et c'est facile à stigmatiser le messager, mais il faut pour analyser les problèmes de fond.
Ok. Il me semble vraiment que l'ingénieur José Ilanga n'est pas du tout d'accord avec vous, mais on va donner la parole parce que vous évoquez aussi les ONG locales qui travaillent sur le terrain. On va leur donner la parole, les réseaux de ressources naturelles congolaises, une des ONG congolaises très actives sur le terrain dans les secteurs forestiers, partage les mêmes avis que Greenpeace International pour son coordonnateur national Joseph Kobobia. Beaucoup de titres ont été octroyés de façon illégale et l'impact du travail mené par des exploitants forestiers est négatif. Suivant cet entretien que Kéline Couté a eu avec M. Joseph Kobobia.
Monsieur Joseph Kobobia, l'ONG britannique Greenpeace a publié hier un rapport sur les pillages de forêts en RDC. Elle demande l'annulation des contrats forestiers. Est-ce que vous partagez cet avis de Greenpeace?
Je partage ces avis, étant donné que beaucoup de titres ont été pris après que le moratoire ait été signé par le ministère de l'Environnement. Donc, il y a des titres qui ont été octroyés après mai 2002. Ce qui veut dire que ces titres ont été octroyés de façon illégale. Et à ces conditions-là, ces titres doivent être annulés.
Vous qui travaillez sur terrain, que pouvez-vous dire du travail fait par les exploitants forestiers? Est-ce qu'ils font convenablement leur travail?
Le travail des exploitants forestiers, je vous dis que nous venons aussi, nous, Réseau Ressources Naturelles, de mener une étude sur l'impact socio-économique de cette exploitation industrielle du bois. Nous n'avons pas encore publier nos résultats, mais je vous annonce que c'est un impact négatif. C'est vraiment négatif. Les communautés locales ne tirent pas profit. Les routes, par exemple, les routes construites par les exploitants forestiers, ce sont juste des pistes pour qu'ils aillent chercher leur bois. Et ces pistes-là donnent accès aux braconniers qui vont chasser, qui vont détruire la biodiversité. Et s'il faut parler de centres médicaux qui construisent, je dois vous dire, j'étais à l'Équateur, je vous assure, c'est un carton de médicaments qu'un exploitant forestier dépose entre les mains d'un chef de groupement, et c'est au chef de groupement, qui n'est même pas médecin, qui n'est même pas infirmier, qui n'a pas la spécialité de distribuer ces médicaments à qui il veut. C'est-à-dire qu'on peut distribuer, on peut donner l'aspirine à quelqu'un qui a une plaie. Comme l'école, j'étais moi-même scandalisé. Je vous dis, j'ai des images à l'appui. Il fallait qu'on fasse passer certaines images à la télévision pour que la population voit. En parlant des écoles, mais c'est juste un endroit où les enfants sont assis, à même le sol. Et le soir, après que les enfants soient partis, mais ce sont les chèvres, les boucs qui passent la nuit. Est-ce que vous allez me dire, ce sont des écoles? Je vous dis, il y a un impact négatif.
Et qu'est-ce que le réseau des ressources naturelles propose pour mettre fin à tout cela?
Ce que nous proposons pour mettre fin à tout ce pillage, nous disons qu'il faudrait que tout soit légal.
Voilà, selon plusieurs enquêtes, l'exploitation la plus intensive a eu lieu dans la province du Bas-Congo, qui est relativement proche de la capitale Kinshasa et des ports. À ces jours, il ne reste presque plus de forêts primaires dans cette province. D'après le pasteur Tamba Justin, un habitant du territoire de Sikibanza, plusieurs espèces commencent à disparaître dans ce qui reste encore de la forêt du Mayombe à cause d'une exploitation désordonnée qui n'a pas du tout bénéficié aux populations locales. La même source indique que tout cela s'est fait avec la complicité des autorités politico-administratives qui ferment les yeux sur les agissements des entreprises d'exploitation du bois. Le pasteur Tamba Justin a été joint par Guy Roger Niampala.
En fait, la forêt du Mayombe, comme vous le savez, c'était une forêt tout à fait vierge et avec toutes les essences, mais à l'heure qu'il est, non seulement les industries de bois ne se soucient pas de faire le travail comme il se doit, mais surtout aussi les scieurs de long dévastent les forêts en coupant les essences même non mûres. Par exemple, dans les cas ici, dans notre territoire des Sekebanza, parce qu'il y a plusieurs essences qui commencent à se perdre. Le Tambala, il n'y en a presque plus. Le Limba, c'est exploité d'une manière désordonnée. La forêt a été donnée à la population locale comme étant un bien pour qu'ils devaient s'en servir. Mais malheureusement, les sociétés forestières qui exploitent le bois le font à leur propre profit. C'est-à-dire que les populations locales ne bénéficient de rien. Sans hôpitaux, pas d'école, les routes non entretenues. En tout cas, pas du tout. Parce qu'il me semble que la société d'exploitation, excusez-moi les termes, en complicité ou en duplicité avec les autorités politico-administratives, entendez par là peut-être les ministres, peut-être les services de l'environnement, ils exploitent comme ils entendent. Quand la population locale s'interpose, ils disent que nous n'avons pas à traiter avec vous. Il y a ce qu'ils appellent des concessions. Chaque société forestière a un lopin de terre où il s'est dit être le seul garant. Annuler tous les anciens contrats, établir de nouveaux contrats qui peuvent bénéficier aux populations locales, et ça serait vraiment salutaire pour la population.
Madame Françoise Van de Ven, secrétaire générale de la Fédération industrielle du bois en RDC, a encore les coordonnateurs du réseau des ressources naturelles congolaises et les témoignages de cet habitant des Sekibanza dans les Bas-Congo que nous venons de suivre. Le couple exploitant forestier autorité est mis en cause dans ce que l'on peut qualifier d'exploitation abusive des forêts en RDC.
J'ai bien saisi ce que les différents intervenants ont dit. Je suis un peu, étonnée. Quand on me parle, dans le cahier des charges, si nous devons faire la construction d'un dispensaire, est-ce que là, cela maintenant implique aussi qu'on doit alors engager un docteur, des infirmiers, un laborant, on doit fournir en permanence aussi les produits pharmaceutiques. Si on arrive à ça, là, on remplace tout à fait l'État. Il y a déjà des écoles qui ont été construites où les sociétés forestières sont obligées de payer des enseignants, puisque le ministère de l'enseignement n'est pas en mesure de mettre des enseignants là-bas qui sont payés d'une façon correcte sans qu'ils doivent pour autant s'acharner sur les parents des élèves. Alors quand il s'agit du Bas-Congo, je crois, à ma connaissance, il reste, et ça fait déjà un bon bout de temps, plus que 2 sociétés qui sont actives au Bas-Congo. Par contre, et ça a été déjà témoigné dans plusieurs rapports par des ONG internationales, la forêt est parsemée de secteurs de long et ce bois, il part surtout au niveau de l'Angola et Cabinda. Et nous avons déjà à maintes reprises signalé cette affaire, je vous dis, parce qu'ils travaillent aussi dans les concessions des forestiers et même dans la réserve de Loki. Malgré tout ça, on met toujours les secteurs forestiers industriels formels, on les mélange toujours avec les informels et aussi au niveau par exemple du programme d'accord surtout de Greenpeace, on met dans les noms des sociétés qui sont citées, on met les noms de sociétés où moi déjà depuis un an j'ai dévoilé à Greenpeace la façon dont ils travaillent et qui était tout sauf formel. Malgré ça, je n'ai jamais vu le premier rapport de Greenpeace à ce sujet, et maintenant, ils se permettent de classer cette société-là parmi notre secteur, comme s'il est dans notre syndicat, et que nous avons autorisé qu'il nous joigne, pendant que nous avons des objets tout à fait différents.
Madame Françoise Van de Ven, si je peux vous demander de pouvoir réagir par rapport à ces deux personnes qu'on vient d'écouter, est-ce que vous partagez ce qu'ils disent, ce qu'ils vivent sur le terrain? Est-ce vrai ce qu'ils disent?
Mais ce qu'ils disent au niveau de la forêt du Bas-Congo, les signaux de l'eau, nous les signalons déjà depuis longtemps. Il suffit d'aller au port de Boma pour voir tous ces bois qui passent, et sans que pour autant ils passent dans des contextes normaux, je dirais légaux, malgré tout ce que nous pouvons signaler, parce que l'effet des signaux de l'eau n'est plus limité au niveau du Bas-Congo, mais est aussi déjà à l'équateur, au Bandundu, à l'est du pays, au nord Kivu, ces gens ont pratiquement fini la forêt. Maintenant, ils se trouvent au niveau de l'Ituri. Donc, ça ne s'arrête pas. Nous avons déjà dénoncé qu'ils ont à peu près 5 millions de mètres cubes en exploitation. Et nous, on met tout ça sur notre dos. Donc, moi, je trouve que c'est pas normal. Les sieurs de long, ce sont des exploitants artisanaux, ce ne sont pas des exploitants industriels. Je ne dis pas que notre secteur ne peut pas s'améliorer. D'ailleurs, avec les plans d'aménagement que nous allons faire, il va s'améliorer. Mais je ne vois vraiment pas comment on peut mettre sur notre dos tous ces autres faits que même Greenpeace ne fait pas d'effort pour dénoncer.
Monsieur José Ilanga, conseiller chargé des forêts au ministère de l'Environnement, depuis plusieurs années, des rapports qui se succèdent sur l'exploitation forestière en RDC dénoncent l'opacité de la gestion des ressources financières qui en découlent. Est-ce vrai?
Permettez-moi de revenir moins d'une minute sur la véracité des données ou des informations que donnent nos ONG, aussi bien internationales comme Greenpeace, que les ressources naturelles.
Ils sont sur
c'est quoi? C'est nos amis aussi bien du réseau que de Greenpeace doivent se renseigner à la base. Mais nous avons l'impression qu'ils ramassent les informations à travers l'Internet pour essayer de faire comprendre ou faire voir aux gens, au niveau bien national qu'international, qu'il y a un désastre, qu'il y a une catastrophe. Pour nous, à ce moment-là, nous considérons qu'il s'agit beaucoup plus de l'intoxication.
Permettez-moi
que je termine.
Je vous donne la parole, monsieur ingénieur José Ilanga. Mais en dehors des responsables des ONG, Greenpeace, les réseaux nationaux, les ressources naturelles, il y a aussi les témoins, les témoignages que nous venons de suivre. Vous n'allez pas me dire que celui-là a ramassé les témoignages sur Internet.
Non, nous avons lu ce matin le point de presse de Greenpeace. Et là, il y a deux choses qui frappent. La première, c'est qu'on dit que le nouveau code forestier n'est pas appliqué. Donc, il est clairement, tout le monde le sait, que nous sommes dans la phase des définitions, des mesures d'exécution de ces codes forestiers et nous sommes suffisamment avancé. Il faut allusion qu'il n'y a pas de zonage. Et ça, c'est malheureux parce qu'actuellement, sur le financement de la FAO, si vous permettez, il y a les zonages qui se font dans les triangles Issala, Bumba, Businga, qui concernent plus ou moins 2 millions d'hectares de forêt et 11 sociétés. Donc, d'ici la fin de l'année, donc au mois de novembre, nous y arriverons à mettre sur pied ce qu'on appelle les guides méthodologiques de zonage.
Je t'expliquerai. Oui. Le tonnage, c'est quoi?
Pardon?
Le tonnage.
Zonage. C'est la mélange. Oui, oui. Donc, en fait, on détermine, on prend une zone forestière et on détermine ce que notre ami de Greenpeace a dit tout à l'heure, les parties qui peuvent être exploitées,
voilà, on va dire
à des fins agricoles, exploitation forestière ou encore une autre activité.
Okay.
Donc en fait, il y a une force qui est fournie, mais nous avons l'impression que nos amis n'ont pas suffisamment d'informations. Okay. Lorsque, par exemple, je termine par là, lorsqu'ils disent que lors du moratoire, il y avait, après le moratoire jusqu'à ce jour, environ 15 millions d'hectares de forêt ont été concédés. Alors que si vous regardez la liste qui a été établie par la commission interministérielle, il y a 22 millions d'hectares de forêt concédés. Croyez-vous qu'en moins de 2 ans, 3 ans, on va concéder 15 millions? Ça, c'est un peu exagéré.
Donc,
vous parlez de l'opacité, de la gestion et tout ça. Je m'en vais vous dire une chose. La politique du ministère qui gère les forêts repose sur deux volets.
Lesquels?
Nous avons cité les quelques efforts que nous consentons. C'est-à-dire, il y a d'abord l'assainissement du secteur. Parce que,
en termes clairs,
oui,
l'assainissement des secteurs, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va faire?
Non, l'assainissement, on appelle
vulgairement les petits peuples qui nous écoutent, parce qu'on pense qu'ils vous disent.
Oui,
parce qu'on emploie souvent les gros mots, les grosses expressions, assainissement des secteurs, mais qui ne veut rien dire au sein de la population.
Si vous voulez mettre de l'ordre, parce qu'on a constaté qu'il y avait un désordre, qu'il y avait des titres qui étaient acquis illégalement, ou bien sans rester au cadre juridique. Et il y avait des gens qui avaient des concessions forestières qui ne les exploitaient pas, en fait, qui soutiraient des grands blocs forestiers du patrimoine forestier national. Alors, c'est assainir, c'est quoi? Assurer que l'État récupère ce qu'il peut récupérer. L'État peut se fermer des entreprises qui n'existent que de nom, et que l'État puisse assurer la bonne gouvernance.
Et cet assainissement a déjà commencé?
Il a commencé déjà à partir avec le moratoire.
Il y a combien d'entreprises forestières qui ont été déjà fermées, à qui on a
réussi? J'ai bien cité un cas, il y a de cela, pas plus tard qu'il y a deux semaines et demie, que nous venons récupérer plus de 3 millions d'hectares de forêt auprès de 14 sociétés qui ont violé aussi bien l'esprit du moratoire que l'esprit du décret présidentiel. C'est-à-dire que ceux qui ont obtenu des concessions forestières après la publication du décret présidentiel.
Okay.
Et puis le deuxième volet, je disais, c'est, vous savez, les secteurs forestiers doivent contribuer aussi au budget de l'État.
Ouais.
Pas de façon désordonnée, bien sûr, après l'avoir assaini. Les secteurs, l'espace, il reste.
C'est vrai que valoriser. Contribuer à hauteur de combien dans le budget de l'État?
Oh, de façon très
importante. C'est insignifiant.
C'est insignifiant.
Les secteurs génèrent beaucoup d'argent.
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure.
Oui.
Nous avançons à petit pas, mais nous allons pour faire en sorte que ces secteurs puissent
va faire pour récupérer cet argent qui est peut-être dans ailleurs, qui est dans les trésors.
J'ai visité un cas au niveau du ministère de l'Environnement, qui gère les forêts, bien sûr. Nous sommes en train de redynamiser les contrôles, ou de redynamiser ou bien renforcer les contrôles forestiers à travers la RD Congo. Donc c'est ça qui peut faire que ces secteurs puissent contribuer à part importante au budget de l'État. Donc en fait, il ne faut pas qu'on nous laisse, qu'on nous donne l'impression que nous devons absolument conserver pour conserver. C'est un secteur d'activité productive. Nous devons mettre de l'ordre, ce que nous avons déjà commencé, et bientôt, il faudra que nous arrivions à faire en sorte que ce secteur puisse contribuer au budget de l'État. Bien sûr, au bien-être, quand on dit l'État, ce n'est pas seulement les grandes villes, ce n'est pas les ministères comme les uns et les autres prétendent, mais aussi les communautés locales,
okay,
où sont les bois.
Entamons tout de suite la seconde partie de cette émission avec la question en quoi cette annulation serait bénéfique pour la population et l'environnement. Nous allons prendre la question d'un auditeur, Robert Ouattabeya, dans les Kasaï Oriental.
Je m'appelle Robert Ouattabeya. Je vous appelle depuis le Kasaï Oriental. Ma question est la suivante. À qui profite l'exploitation forestière en RDC? Si cela ne profite qu'à quelques individus influents, que la demande de l'ONG Greenpeace soit exécutée.
Je suis tenté de reposer de demander à l'ingénieur José Ilanga, parce que c'est le seul qu'on a, hein, le studio qui parle, qui est du côté du pouvoir public en tout cas. Mais monsieur Stéphane, vous pouvez répondre à cette question. À qui profite, selon vos enquêtes, à qui profite la manne forestière en RDC?
Bon, il y a plusieurs niveaux. Bon, certainement pas aux ayants droit. Hein. On a vu que
c'est-à-dire aux populations.
Kayitchash ne représente pas vraiment de grandes valeurs. Les travailleurs, ils ont leur travail, c'est très important, mais souvent les salaires sont minimales. 0.3 $ par jour pour les journaliers, c'est des chiffres qu'on entend régulièrement. C'est pas vraiment suffisant pour nourrir une famille. Donc là aussi, il y a un travail à faire. Ça n'apporte pas véritablement aux entités administratives décentralisées parce que les taxes de rétrocession qui parfois sont payées par le secteur, soyons clairs, ne rentrent pas parce que selon la loi, 40% doit redescendre, 15% au territoire et 35% aux provinces. Il n'y a pas de trace que c'est investi dans le développement décentralisé. Donc, il est clair qu'une partie des taxes reste à Kinshasa, mais il y a aussi une évacuation illicite parce que même encore il y a quelques semaines, on a constaté sur le terrain, et c'est pas sur l'Internet, c'est sur le terrain qu'il y a des déclarations de 100 grumes et qu'il y en a 400 qui partent. C'est des situations qui sont réelles. Parfois aussi, on constate que si la société civile se plaint, il y a tout de suite une intimidation juridique. Encore aujourd'hui, il y a 28 personnes de la société civile de Bumba qui sont à la justice parce que la société Sifoko les accuse de diffamation. Donc, c'est clair que c'est une tension qui règne. Et quand on demande l'annulation des titres en violation du moratoire, il faut se poser la question claire. Comment ces titres ont pu être obtenus? Qui a mangé? Combien a été mangé et qui a donné à manger? Oui. Je pense que ça sont les questions à poser par une commission parlementaire parce que on a rencontré aussi sur le terrain une nouvelle génération de politiciens qui sont là effectivement pour défendre les intérêts des communautés et pas uniquement de courir derrière les enveloppes.
Ok. Réaction de Mme Françoise Vandeven. Vous avez suivi la question de l'auditeur et votre réaction?
Oui, j'ai bien suivi. Je suis contente que vous me donniez encore une fois la parole parce que c'est nous qui sommes accusés et apparemment la parole, elle va partout sauf au niveau du secteur privé. En ce qui concerne la revue légale, je crois qu'elle va définir la légalité des titres et qu'à partir de ce moment-là, il y aura certainement un assainissement qui se fera au niveau de titres qui ne sont pas exploités et qui n'ont pas été exploités même pendant 10 ans. Je crois que M. Stéphane n'est pas sans savoir que la majorité de ces titres-là appartiennent à des nationaux, et cela peut aussi créer beaucoup de problèmes en disant que les sociétés étrangères seront favorisées et que les nationaux n'auront même pas eu l'opportunité de se développer. En ce qui concerne la gestion durable, je crois que le code forestier, dans son temps, quand il a été rédigé, publié, promulgué, le but de ce code était d'avenir à une gestion durable et surtout participative. Alors moi, je me pose la question, quand Greenpeace attaque les coopérations françaises et allemandes qui veulent bien aider les exploitants qui seront convertis dès que la commission interministérielle a pu juger de la légalité de l'article, donc qui veulent donc bien aider les exploitants pour faire le plan d'aménagement en leur octroyant des financements. Et je dis bien des financements, c'est pas des subventions. Quand vous voyez la campagne que Greenpeace fait là-dessus, on se doute, est-ce que Greenpeace vraiment a comme but de faire une gestion des rendres, ou est-ce que c'est plutôt le but d'écarter tout le monde de la possibilité d'arriver à la gestion des rendres. D'autre part, quand j'entends qu'on veut mettre encore 25 millions d'hectares en conservation, nous ne sommes pas contre ça, sauf quand nous entendons que les budgets pour l'instant des multibailleurs, le budget de fonds qui a été créé, il y a 1,5 million euros dedans. Est-ce que tous les habitants là, qui habitent dans les 25 millions d'hectares, ils devront partager ces 1,5 million euros, ou c'est quoi le but de la survie de cette population? Est-ce qu'on pense à eux, ceux qui vont rester dans ces forêts, qu'est-ce qui va leur avenir? Est-ce qu'on va faire des réserves aussi intégrales ou on va leur interdire la chasse et l'agriculture? Ça, c'est beaucoup de points d'interrogation. Pour le reste, si l'État congolais peut rentrer dans ses droits et trouver assez de fonds pour couvrir le développement des populations vivant dans ces 25 millions d'hectares de forêt, nous n'avons aucune objection à ce que la conservation soit faite.
Okay.
Je tiens aussi un petit point. C'est vraiment rapide dans le sens au niveau des forêts octroyées pour l'instant et qui ne sont pas encore revues et dont il y aura un assainissement, nous arrivons à 15% de la superficie des forêts en RDC. Okay. Quand vous voyez au Gabon et au Cameroun, la superficie octroyée à l'industrie est entre 40 et 60%. Donc je crois qu'on dramatise les gens, les choses ici, mmh. et que de l'autre côté, on ferme les yeux.
Ok, monsieur Stéphane, je reviens à vous avec cette préoccupation. En tout cas, il y a une certaine opinion, bon, madame vient de relever un tout petit peu en passant, une certaine opinion qui estime que bon, Greenpeace, d'abord, vous bénéficiez de beaucoup de fonds qui vous sont accordés, et bon, à cause de ça, vous ne pouvez que dénoncer, et que d'autres aussi estiment que bon, Greenpeace ne s'occupe pas des grands pollueurs de la planète, mais s'occupe de ceux qui essayent de faire quelque chose pour les populations locales et que même les mêmes populations locales ne sont même pas dans vos soucis.
Bon, je crois qu'il est clair, Greenpeace reçoit des dons des citoyens du monde pour justement œuvrer pour une gestion responsable des ressources naturelles, les océans, les forêts. On attaque bien les grands pollueurs. C'est aussi pour cela que ici cette campagne vise plutôt les grandes industries multinationales qui ont des liens et des capitaux en Europe plutôt que les petits Congolais. C'est toujours facile d'accuser les scieurs locaux. Mais bon, il y a une responsabilité au niveau des sociétés internationales, parce que là, c'est les consommateurs européens qui demandent quand même un peu de respect pour les produits et les zones d'origine.
Okay.
Maintenant, je peux vous dire que au niveau des marchés de carbone actuellement, il est clair que vos forêts sont précieuses et elles valent beaucoup plus au niveau international que le simple mètre cube qui sera coupé.
Okay.
Et les pauvres taxes qui vont revenir. C'est là il y a le défi pour le gouvernement congolais de bien négocier au niveau du post-Kyoto les mécanismes pour de compensation, pour garder les forêts. Comme ça, les villageois peuvent continuer à chercher les protéines dans la région.
peuvent continuer à bénéficier de l'ombre de leur forêt
c'est
et pourraient aussi bénéficier, si bien gérés naturellement, des fonds qui vont peuvent se développer au niveau des marchés de carbone international.
C'est bien compris.
Vraiment une alternative.
C'est bien compris, M. Stéphane. Il y a justement une question d'un auditeur en rapport avec la compensation, mais cette fois-là, pas en termes de, pas du côté de la population, mais en tout cas du côté des sociétés forestières. Mais avant de prendre cette question très rapidement, en deux, trois phrases, ingénieur José Ilanga, pourquoi l'argent qui est payé dans ce secteur-là forestier n'est pas traduit sur le terrain au bénéfice des populations locales par l'État, n'est pas traduit en termes d'hôpitaux, de routes, des dispensaires, ainsi de suite, des écoles?
Merci pour la parole. Je crois, loin de moi, l'idée de prendre position aussi bien pour les ONG ou pour les sociétés forestières. Je me présente ici comme étant le mandataire de l'État. Donc, en fait, je suis là pour informer la population des efforts que fournissent l'État à travers le ministère qui gère les forêts pour que les uns et les autres, et surtout les communautés locales, puissent bénéficier des retombées de l'exploitation forestière ou encore des ressources forestières qui sont à leur disposition. Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons un code forestier qui a été promulgué, élaboré et promulgué parce qu'on avait constaté les limites de l'ancien code forestier. Et le nouveau code forestier est clair à ce sujet. Il est clair parce que la rétrocession dont nous parlons ici, elle est presque acquise depuis la promulgation de la loi portant la constitution de la RD Congo. Il y a l'article 175 qui concède automatiquement aux communautés locales 40% de l'exploitation. Donc, on ne peut pas revenir là-dessus.
C'est bon.
Les efforts sont là.
C'est bien compris.
Et les communautés locales, loin d'être exclues, ils sont partie prenante dans l'exploitation d'abord et dans les bénéfices qui
40% des rétrocessions, c'est bien, mais sur papier, c'est bon. Mais il faut pourvu que cela arrive. Parce que dernièrement, il y a une semaine, je crois, on a eu des gouverneurs qui se plaignaient à ce que, qui disaient que les 40% des rétrocessions n'arrivaient toujours pas jusque-là. Bon, j'espère bien que le gouvernement va se battre pour que tout le monde puisse se retrouver. Un autre auditeur, David Bouanga, dans les Katanga, pose cette question.
Moi, c'est David Bouanga de Manon Honor Katanga. Je voudrais savoir qu'est-ce que l'ONG britannique prévoit en compensation comme travail bénéfique aux exploitants forestiers.
Voilà, Monsieur Stéphane, cette question vous est posée. Vous allez réagir tout de suite. Pamela, bonsoir. Réaction de nos auditeurs.
Oui, nous commençons par Jacques Bouli à Mbandaka, dans la province de l'Équateur, qui croit qu'il serait mieux que le gouvernement provincial délivre eux-mêmes les permis d'exploitation pour que les populations locales puissent réellement en bénéficier. Jean-Luc Mwanzakael à Lubumbashi, dans la province du Katanga, pense que le gouvernement doit prendre à sa juste valeur toutes les richesses du pays afin d'aboutir à un développement intégral de la nation entière. Et puis il y a José Mobondo à Goma, dans la province du Nord Kivu, qui dit ceci. Dans le territoire de Mambasa, la population de Biakato est dépourvue de leur forêt traditionnelle. Plus de 83 000 hectares de concessions ont été pris sans consulter la communauté locale. Et les pygmées n'ont plus de territoire pour leur survie. Et enfin, un autre auditeur demande au gouvernement de songer aussi à l'exploitation des sapins Gozo à Kolwezi, qui est abattu sans être reboisé.
Ok. Monsieur Stéphane Van Prouet, votre réaction très rapidement.
Oui, rapidement. Donc, je pense que pour le secteur industriel de bois qui restera au Congo, clair qu'il restera, il faudra qu'ils utilisent le principe de plus haute valeur pour la gestion responsable, ça c'est clair. Mais sinon, je crois que le défi du gouvernement congolais, c'est ensemble avec les dynamiques internationales de bien négocier au niveau de négociation sur le climat des compensations éventuelles pour la protection et la conservation de la nature. Et ces fonds, ils sont considérables sur le marché de carbone, mais pour le moment, il n'y a pas de compensation pour les forêts qu'on protège. Donc ça, c'est vraiment un défi pour les États de l'Afrique centrale. Et si ces fonds sont bien gérés, ils pourraient aussi rétrocéder aux communautés forestières, vraiment être un moteur pour un développement rural, sans qu'on doit abattre ces forêts précieuses.
C'est bien compris, merci. J'espère que le gouvernement nous suit et il va prendre en compte toutes ces recommandations parce qu'il y a vraiment une détermination du côté du gouvernement. Ça, on peut quand même le dire, de mieux faire cette fois-là les choses. J'ai vu, pendant que M. Stéphane parlait, M. l'ingénieur José Ilanga,
d'accord.
Vous étiez en train de bouger la tête, donc vous êtes d'accord avec cette recommandation.
Oui,
très rapide.
Je crois que nous ne pouvons pas être contre la recommandation parce que, je l'ai dit tout à l'heure, le défi du gouvernement, c'est la gestion rationnelle et durable des ressources forestières au bénéfice des générations actuelles et des générations futures. C'est-à-dire que les efforts seront concentrés, sont d'ailleurs en train d'être concentrés pour réaliser ces défis. Et à côté de ça, je ne pense pas que nous sommes là pour conserver en fait, je voulais dire.
Ok, et n'oubliez pas également du côté des reboisements parce que les forêts sont coupées, mais il faut aussi penser aux générations futures.
Tout à fait d'accord avec ça.
Ok. Madame Françoise Van de Ven, votre réaction pour terminer cette émission?
Ma réaction est simple. Je suis contente d'entendre M. Jean-Pierre dire que le secteur doit quand même se vivre et je peux te garantir que les membres de notre fédération veilleront que dans le futur, leur gestion serait durable, transparente et de bonne gouvernance.
Merci. Dans un rapport publié hier mercredi 11 avril, l'ONG britannique Greenpeace International réclame l'annulation des contrats d'exploitation forestière attribués en violation du moratoire de 2002. C'est le terme que nous avons exploité ce soir. Sur quoi se base Greenpeace International pour réclamer cette annulation? En quoi cette annulation serait bénéfique pour la population et l'environnement RDC? C'était les questions qui nous ont aidé à débattre ce soir. Merci à vous tous de nous avoir suivis et bonsoir chez vous.
Oh, Cassie, oh, Cassie.